Il faut le progrès, il faut pas la pagaille.
Notre village au fil du temps. Un épisode proposé par François Marceau. Aujourd'hui, bienvenue à Fontenay. Une histoire des travailleurs venus d'autres pays. Bonjour François. Alors, en quelle date vont arriver les premiers étrangers à Fontenay ?
Alors, on a un premier étranger qui arrive vers 1906. C'est un Italien mineur qui s'appelle Jean-Baptiste Soretto. C'est un fils d'agriculteur de la région de Turin. Il se marie avec une Française. Il reste mineur puis devient épicier débitant au Val où il réside avec son épouse et ses enfants. Sa fille épousera un Italien. Ils resteront commerçants dans la commune. Dans les années 20, on peut noter qu'ils avaient acheté une maison au Val. Cet Italien décédera dans les années 1940. Il restera longtemps le seul étranger de la commune.
Quel est le contexte ? Comment voyons-nous d'autres arrivants venir à Fontenay ?
Dans un contexte bien triste, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a eu de nombreux morts et de nombreux mutilés. Du coup, la France va passer des accords avec plusieurs pays européens pour faire venir de la main-d'œuvre, notamment dans son agriculture et dans son industrie. L'État va quelque peu déléguer les recrutements à des sociétés privées. Alors, la plus connue, c'est la Société Générale d'Immigration, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Cette société de recherche et de placement d'ouvriers est dirigée principalement par le Comité central des houillères de France, l'Office central de la main-d'œuvre agricole et le Comité central des fabricants de sucre.
Et qu'en est-il à Fontenay-le-Marmion ?
Alors à Fontenay, nous sommes concernés. En 1921, il y a 16 étrangers à Fontenay. Un couple belge, les autres sont italiens, surtout des mineurs célibataires. Il y a également quelques familles. D'un seul coup, 46 étrangers apparaissent au recensement de 1926 sur 583 habitants. Ce sont les mineurs, et les mineurs étrangers représentent le tiers de tous les mineurs, ce qui est une très grosse proportion. La plupart d'entre eux sont installés au lieu-dit les Bitardières. Le nombre croît encore jusqu'en 1931. Ils sont toujours aux Bitardières et un petit peu au Val. Et puis arrivent quelques travailleurs agricoles. Mais eux, ce sont des Flamands, alors que les mineurs sont surtout des Italiens ou des Polonais. La situation perdure et en 1946, ils sont 63 sur 467. C'est la proportion la plus importante. Toujours Polonais et Italiens pour les mineurs, ils sont alors installés à la cité de Tarot. Certains sont terrassiers car il faut reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. Les nouveaux venus viennent souvent des mêmes contrées. Ils se marient souvent entre compatriotes, au moins pour la première et aussi la seconde génération. Puis les mariages avec des locaux se multiplient. Il semble que l'intégration ait été relativement facile, même si les vexations, les préjugés, furent pendant un temps une réalité à ne pas sous-estimer. Ces migrants étaient tous de la même religion que les locaux, ce qui a pu faciliter leur intégration. Ils organisent des fêtes et des événements entre eux. Une partie d'entre eux va cependant retourner au pays. Une seconde vague d'émigration sera consécutive à la Seconde Guerre mondiale. Là, il faut reconstruire, produire. De nouveau, des Italiens, des Polonais arrivent dans notre secteur. Ils sont souvent de la même famille que les premiers arrivants.
Alors François, est-ce que tu peux nous parler spécifiquement des agriculteurs flamands ?
Après la Première Guerre mondiale, de nombreux Flamands vont émigrer en France, notamment dans l'agriculture. Certains viennent par l'intermédiaire d'agences officielles, d'autres par leurs propres moyens ou par des connaissances. En Flandre, les cultivateurs sont très catholiques, exploitent de petites fermes, ils ont beaucoup d'enfants. Ainsi, au sortir de la Première Guerre, il n'y a pas de terre ni de travail pour tous. Le besoin de main-d'œuvre en France est donc une opportunité pour eux. Certaines familles belges installées à Fontenay vont arriver par l'intermédiaire de connaissances. Ainsi, par exemple, un chauffeur de taxi belge installé à Paris conseille Cyril Verast et sa famille, originaire d'Ingelmuster en Flandre occidentale, de venir en Normandie. La disponibilité de terres est un attrait important. D'abord installée à Angoville, la famille va à Fierville avant de s'installer à Fontenay vers 1937. Ce cultivateur va cultiver le lin. L'une de ses filles épousera un autre migrant belge, Gilbert Vandermersch. La famille Vandermersch, originaire de Menin, proche de Courtrai, est arrivée en France par l'intermédiaire de parents, la famille Donte, qui était agriculteur à Bretteville-sur-Lèze. C'est à l'occasion d'une communion que la famille Vandermersch fut convaincue de venir dans le Calvados. La famille est d'abord à Bretteville-sur-Lèze, puis métayer et fermier au hameau de Goménil à Saint-Eau. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. La famille s'installe à Fontenay à l'issue du mariage entre Gilbert Vandermersch et Agnès Verast. Ils seront sur les terres du duc d'Harcourt et achètent quelques hectares, tout en exploitant les terres du duc. Une petite anecdote. Pendant la guerre, les cultivateurs devaient déclarer aux Allemands leur culture. Mais Cyril Verast semait des carottes entre le lin, ce qui échappait à la déclaration faite aux Allemands. Nous notons que beaucoup de Belges se marient pour les premières générations arrivées en France entre compatriotes. Il existait dans les départements normands le bal des Belges, lieu propice aux rencontres.
Alors c'est l'occasion justement de parler de la fameuse crête de Fontenay.
Bien entendu. Au début des années 60, les propriétaires terriens, qui avaient également des propriétés et surtout des vergers d'orangers en Afrique du Nord, ont voulu en avoir en France, pour une question de prestige. Bien entendu, les orangers sont remplacés par les pommes. C'est ainsi que fut créée la crête de Fontenay. L'entreprise est une société par action. La famille d'Harcourt en est majoritaire. La famille Vandermersch en est également actionnaire. Ce qui est amusant, c'est que Gilbert Vandermersch, qui arrachait les pommiers à cidre des terres qu'il exploitait, et ce, malgré la désapprobation de son beau-père, va devenir le principal actionnaire de la crête de Fontenay. Dans les années 90, la grêle détruit une partie des plantations. La famille d'Harcourt n'est plus intéressée. Ainsi, les membres de la famille Vandermersch deviennent les seuls actionnaires de la crête. Puis en 2012, il n'y a plus de repreneurs familiaux. C'est ainsi que la vente de la société devient d'actualité. Les différents actionnaires ne sont pas d'accord pour le choix de l'acquéreur. Certains souhaitaient céder la société à la société Dauphin, d'autres veulent que ce soit à la SAFER, qui est la société d'aménagement foncier d'établissement rural. À ce moment-là, il y a 12 candidats. C'est finalement à la SAFER que l'établissement sera vendu. À l'occasion de son assemblée générale, fin 2013, la SAFER va, parmi les 6 derniers candidats restants, désigner Hubert Achard de Lavente comme acquéreur. Il est à l'époque parmi les jeunes agriculteurs et est soutenu par la région Basse-Normandie. Ainsi a été créée la crête de Fontenay.
Qui n'est pas un festival de musique punk.
Et non.
Alors à Fontenay, il y a aussi une grande communauté d'Italiens.
Oui, les Italiens étaient les plus nombreux parmi les travailleurs étrangers qui sont arrivés à Fontenay. Tout d'abord, des célibataires, les Andriolo, Bonfardin, Croze, Darrois et Campedel. Tous d'un petit village dans les Dolomites, la Valle a Gordina. Ils s'installent dans le quartier des Boualonnais, qui est un quartier aujourd'hui disparu, qui est près du Val. Ils ont été recrutés par des Français émissaires, principalement des industries, pour venir dans les mines. Il y a également plusieurs familles qui arrivent à Fontenay au début des années 20. Ensuite, les familles de ces hommes les rejoignent. Ces familles vont en partie rester. D'autres repartent. Puis, à la demande de la France, une deuxième vague d'émigration italienne va suivre la Seconde Guerre mondiale. Dans notre région, il faut reconstruire. C'est ainsi que dans les années 50, de nouveaux émigrés viennent à Fontenay. Ils sont quelquefois de la même famille ou alors de la même région que les premiers arrivants. Ces familles vivent d'abord, comme les autres populations étrangères, en petites communautés. Ce n'est que dans les générations suivantes que l'intégration sera complète par des unions avec des locaux et une maîtrise de la langue française qui ne fut pas évidemment une évidence pour tous. Il perdurera pour les Italiens de Fontenay la fête des Italiens avec un banquet annuel sous le préau de l'école primaire.
Et qu'en est-il des travailleurs polonais ?
Les Polonais. En 1919, la France, toujours avec son besoin de main-d'œuvre, va signer une convention d'immigration avec l'État polonais. La conjugaison du besoin de main-d'œuvre en France avec la pauvreté, le manque de terres et le chômage en Pologne sont les clés de ce phénomène. Ces travailleurs viennent en train ou en bateau, puis souvent sont centralisés dans un centre à Toul, en Meurthe-et-Moselle. Ce centre est installé dans une caserne. Là, les travailleurs subissent une sorte de quarantaine et un tri. Beaucoup commencent à arriver à Potigny pour les mines. Certains vont ensuite venir à Fontenay, comme la famille Grézik. Ils sont mineurs. Wojciech Grézik va malheureusement décéder dans les mines de Mai en 1948. Il était meunier en Pologne avant de devenir mineur en France. Il venait de la région de Wrocław. La communauté polonaise dans notre secteur n'est pas aussi importante qu'à Potigny. Certains repartiront en Pologne après la Seconde Guerre mondiale. Comme beaucoup des émigrés des années 20, les descendants sont naturalisés français. Pour la petite anecdote, la famille Grézik va perdre son Z dans la bataille de la naturalisation. Aujourd'hui, les descendants de tous ces travailleurs étrangers sont parfaitement intégrés, mais nous ne devons pas oublier le poids du déracinement qu'ont pu vivre leurs aïeux.
Ce soir, il y a de la lumière.